إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette série de lectures des 40 hadiths de l'Hafidh al-Nawawi rahimahullah, ainsi qu'une explication et les règles à tirer des hadiths que l'on lit. Al-hadithu al-khamisu al-ishroun عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Le 25e hadith, qui est aussi un hadith rapporté par Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu. Il dit: quelques compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, les gens riches ont emporté avec eux toutes les récompenses. Ils font la salat comme nous. Ils font la prière comme nous. Ils observent le jeûne comme nous. Et ils ont en plus la possibilité de faire aumône du surplus de leur richesse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a de leur répondre: n'est-ce pas qu'Allah a mis à votre portée des choses dont vous pouvez faire aumône. Chaque glorification, chaque tasbiha, le fait de dire subhanallah, est une aumône. Chaque célébration de la grandeur d'Allah, chaque takbira, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, est une aumône. Chaque louange à Allah, tahmida, le fait de dire Alhamdulillah, est une aumône. Chaque célébration de l'unicité d'Allah, tahlila, le fait de dire La ilaha illallah, est une aumône. Chaque fois que vous ordonnez le convenable, c'est une aumône. Chaque fois que vous empêchez le blâmable, c'est une aumône. Chaque fois que vous faites acte de chair, vous faites une aumône. Envoyé d'Allah, dirent-ils, l'un de nous satisfait son désir charnel et il en reçoit en plus un salaire. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, dites-moi donc, s'il satisfait ses désirs charnels de façon illicite, n'aurait-il pas commis un péché? C'est pourquoi, lorsqu'il les satisfait de façon licite, il en reçoit un salaire. Ce hadith vient nous montrer que l'aumône a une compréhension plus large que ce que l'on en comprend en premier sens. Effectivement, sadaqa, cela peut prendre deux sens. Le sens commun qui est le fait de faire aumône de ses biens, et un sens beaucoup plus large qui comprend toutes les bonnes actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées ici. Le fait de dire subhanallah, le fait de dire Allahu Akbar, le fait de dire Alhamdulillah, le fait de dire La ilaha illallah, le fait de conseiller le bien, le fait de déconseiller le blâmable, etc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé même d'un acte intime qui fait partie des choses licites à la base. La différence de l'acte dont il a parlé, qui est l'acte intime, l'acte de chair, avec les actes qui sont cités auparavant, c'est que les actes cités auparavant sont des adorations à part entière, en soi. Alors que l'acte est un acte licite, comme manger, dormir, quand il est fait dans le mariage, bien sûr, de manière licite. Donc, ici, il l'a cité avec des actes d'adoration qui sont des adorations pures. Si vous souvenez bien, ou je ne sais pas si je vous en ai parlé à vous, mais je pense qu'on en a parlé dans un des cours, quelle est la différence entre une aada, une habitude, quelque chose de licite, el mubah, ce qui est halal, ce qui est licite, et une ibada, une adoration. L'intention, entre autres, l'adoration, elle est légiférée comme telle, pour être une adoration. Alors que les actes de la vie de tous les jours ne sont pas spécialement légiférés pour être des adorations. Celui qui les fait sans intention, il n'a ni récompense ni péché. Celui qui mange, est-ce qu'il a des péchés? Sauf s'il fait quelque chose dans son repas qui est illicite. Mais manger en soi n'est ni récompensé ni châtié. C'est illicite. De même, beaucoup d'autres actes de la vie, qui sont des actes licites, aller travailler. Beaucoup de gens, surtout parmi les anciens, le travail est une adoration. Il n'y a pas de hadith, ça n'existe pas ça. Mais aller travailler, c'est un acte licite. Ce n'est pas une adoration en soi. Dormir, se reposer, c'est un acte licite, c'est pas une adoration en soi, n'est-ce pas? Donc celui qui travaille, celui qui se marie, sans intention précise, celui qui s'approche de son épouse, comme ici dans le hadith, celui qui mange, celui qui boit sans intention précise, il n'a pas de récompense. Ici, il ne faut pas comprendre le hadith dans sa généralité. Il est juste quand on le comprend avec les autres hadiths qui parlent du fait qu'un acte qui n'est pas un acte d'adoration en soi, pour qu'il soit récompensé, il faut l'intention. Il faut une intention pieuse qui l'accompagne. Si maintenant il suffit de rajouter une intention pieuse dans tous ces actes journaliers, dormir, manger, boire, aller travailler, les moments intimes dans sa famille, pour que ce soit considéré comme un acte d'adoration. Les intentions pieuses, elles peuvent être nombreuses. Il suffit que la personne, il mette l'intention qu'il fait cela pour se préserver du haram, pour adorer Allah et s'éloigner du haram. Mais il met l'intention. Allah le récompense. Comme celui qui s'approche de son épouse pour se préserver du haram. D'ailleurs, celui qui se marie dans cette intention, Allah, il met la baraka dans son esprit. De même, celui qui met l'intention que c'est pour se renforcer pour l'adoration d'Allah. De même qu'il peut avoir l'intention, beaucoup d'intentions pieuses. Elles sont innombrables les intentions pieuses que l'on peut mettre dans les actes de la vie de tous les jours. Alors avec une de ces intentions pieuses ou plusieurs d'entre elles, cet acte journalier, cet acte anodin, cet acte parmi les actes licites, même cet acte dans lequel on prend du plaisir, on dort, on prend du plaisir, on mange, on prend du plaisir, on boit, on prend du plaisir, et dans les moments intimes, dans la maison, on prend du plaisir, mais ça devient un acte d'adoration, même si on prend du plaisir. Les sahaba, ils ont dit, oh messager d'Allah, quelqu'un il prend du plaisir, en plus il est récompensé. Ça leur a paru bizarre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre qu'il aurait pu prendre ce plaisir dans le haram. Mais il a choisi de le faire dans le halal. Et c'est sous-entendu ici, et il y a accompagné une bonne intention. Et il y a accompagné une bonne intention. Donc il sera récompensé pour cela. Donc il est récompensé pour cela. Donc on voit ici, subhanallah, qu'il y a plusieurs moyens de faire des sadaqas. Même quand on est pauvre, on peut faire sadaqa. On peut faire sadaqa avec la bonne parole, on peut faire sadaqa avec le dhikr. On peut faire sadaqa en conseillant le bien, on fait sadaqa en déconseillant le blâme. On fait sadaqa même quand on prend du plaisir dans le halal avec une bonne intention. Aussi, il y a une sadaqa, parce que c'est un moyen de préserver sa famille du haram. C'est une sadaqa, ça aussi. Comme on préserve un pauvre de tendre la main. Ça aussi, c'est une sadaqa. Donc, tous ces sens sont réunis dans cette parole prophétique, alayhi salat wa salam. Il y a une autre version, résumée, rapportée par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il suffit à la place de tout cela, de faire deux unités de prière dans la matinée, al-duha. Et on va le voir dans le prochain hadith qui est proche de celui-ci, inshallah. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة الله أكبر. Le 26e hadith. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme, pour chacune de ses articulations, doit verser une aumône, et ce chaque jour que le soleil se lève. Pratiquer l'équité entre deux personnes est une sadaqa, est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou placer ses bagages sur sa monture est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône. Écarter de la voie publique ce qui est nuisible est également une aumône. Subhanallah. Donc on voit, à la suite du hadith que l'on a vu auparavant, que tous ces actes aussi font partie des choses avec lesquelles on peut faire aumône. Être juste dans notre jugement entre les gens. Être impartial. Et pratiquer l'équité avec les gens. Même avec les gens les plus proches de toi. Dire la vérité et être juste, même envers ta propre personne. Même quand toi tu es impliqué dans un conflit. Il faut que tu réussisses à prendre de la hauteur et de la distance avec tes passions, avec ton engagement dans ce conflit, et que tu essayes de regarder d'un œil objectif et juste. Et ne pas chercher à te venger pour ta personne, mais chercher à défendre la justice qu'Allah aime, même contre ta propre personne. Même contre ta propre personne. Ou tes parents, ou les proches, ou tes enfants. Combien de parents, ils ont du mal à être justes avec leurs enfants. Mes enfants sont les plus intelligents, mes enfants sont les meilleurs, mes enfants. Leur amour les aveugle. Et leurs enfants dérivent, ils ont des mauvais comportements, ils font de l'injustice, mais leur amour les aveugle, ils les défendent dans leur injustice. Et en faisant cela, ils ne leur rendent pas service. Ils leur donnent une mauvaise éducation. Ces enfants vont être éduqués d'une mauvaise manière, ils seront capricieux. Ils seront habitués à ce que l'on cède à chacun de leurs caprices. Et personne ne les supportera. Ni leurs amis, ni la famille, ni les proches. Et demain, cette fille, si c'est une fille, tu lui rends pas service, elle sera mariée, elle sera insupportable pour son mari, insupportable. Et si c'est un homme, il sera marié, il sera insupportable pour sa femme. Et tout ça, ce sera de ta faute à toi, car tu lui as donné une mauvaise éducation. Tu ne lui as pas enseigné la justice. Tu lui as enseigné à céder à tous ses caprices. Le vrai amour pour les enfants, c'est d'être juste. De savoir punir quand il faut punir. De savoir priver quand il faut priver. Et de savoir donner de l'amour tout au long. Même quand on punit et on prive, c'est par amour. C'est pas par haine. C'est pas pour se venger. C'est pas, ah, tu m'as énervé, je suis fatigué, je te punis. Non. On le fait pour son bien à lui. Pour son bien à lui. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est, ils laissent, ils font toutes les bêtises du monde. Et quand il en a assez, ça craque, il vient, il tape dans tous les sens. Après, il s'est vidé, il est content. Il peut s'allonger tranquillement. Ni dans le fait de le laisser, il a fait du bien, ni dans le fait de les frapper, il a fait du bien. Dans aucun des deux choix, il a fait du bien. Il a fait que du mal, du début à la fin. Subhanallah. L'éducation, c'est un travail qui demande de la patience et de la répétition. Et ça va être au plus têtu d'entre les deux. Un enfant, il fait une bêtise, tu vas lui dire non une fois. Il va continuer, tu vas lui dire non deux fois. Il va continuer. Si tu arrêtes de lui dire non, il va rester sur sa bêtise. Mais si tu continues et tu lui enseignes et tu répètes et tu répètes et tu répètes et tu répètes, tu ne te lasses pas de répéter, c'est toi qui vas gagner. À la fin, il va le laisser. Tous ceux qui ont des grands enfants, ils savent ça. L'éducation, c'est la répétition, la patience, la répétition, la répétition. Il ne faut jamais céder, il ne faut céder sur rien. Il ne faut céder sur rien. Et il faut savoir, il ne faut pas se dire pourquoi je répète et il continue ses bêtises. Un enfant, c'est ça. C'est pas tu lui as dit une fois, il a compris. Oui, mais je lui ai déjà dit, il ne m'écoute pas. Continue. Continue, s'il faut utiliser d'autres moyens, la menace et la récompense, s'il faut utiliser parfois la punition juste, Parce que la punition démesurée, ça donne aussi des mauvais fruits. Pour une petite bêtise, tu lui donnes une grosse punition. Alors quand il va faire une grosse bêtise, tu vas faire quoi? Tu vas le tuer. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça y est, tu lui as déjà donné une très grosse punition pour une petite bêtise. Maintenant, quand il va faire une grande bêtise, il te reste quoi comme choix? Tu peux plus rien faire, tu lui as déjà... Pour lui, donc, il a la même punition quand tu fais une très grosse bêtise et quand il fait une petite bêtise. Donc, autant faire la grosse bêtise. Tout ça, ça s'apprend. Je vous encourage à écouter, j'ai fait une série d'audio il y a au moins 15 ans, que vous retrouvez sur YouTube, sur l'éducation des enfants. Écoutez-la, Inch'Allah, vous en tirez un grand profit. C'est une parenthèse, parce que souvent, quand on dit l'équité, c'est les proches qui rentrent en jeu. Être juste avec les proches, c'est le plus compliqué. Que ce soit avec l'épouse, que ce soit avec l'époux, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les enfants. Hein? Quand ton épouse est en conflit avec des sœurs, par exemple, est-ce que tu as assez de distance? Est-ce que tu arrives à mettre tes sentiments de côté pour juger avec justice et donner le bon conseil? Ça aussi, ça demande une force intérieure de que le musulman... Il doit aimer la vérité et la justice plus que sa propre personne, plus que ses enfants, plus que ses parents, plus que le monde entier. La vérité et la justice, c'est le plus important. Tant que la personne est comme ça, il sera aimé d'Allah et puis il sera apprécié des gens. Parce que les gens sauront que c'est une personne qui est équitable. Même ceux qui subiront leur punition, sa punition, ils vont l'aimer. Parce qu'ils savent qu'il est équitable. Il les a punis parce qu'ils le méritaient. Même ses enfants, ils vont savoir qu'il l'a puni pour leur bien, non pas pour se venger. Donc, juger entre deux personnes, c'est une sadaqa. Tu juges entre deux personnes équitablement, c'est une sadaqa. De même que tous les autres actes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a parlé ici, le fait d'aider une personne sur sa monture, à monter sur sa monture, maintenant c'est plus les chevaux, mais même dans la voiture, aider à charger ses courses, l'aider à monter ses courses, quand il déménage, l'aider à déménager par exemple. Une bonne parole, un sourire, c'est une sadaqa. Un sourire. Rencontrer ton frère avec un visage détendu, c'est une sadaqa. Une bonne parole. Parfois il y a des gens, ils se lèvent, il n'est pas bien, il est désespéré, il est fatigué. Il a le moral à plat. Tu lui donnes une bonne parole. Une parole. Ça lui change sa journée. Ça lui change peut-être même sa vie. Une belle parole. Il y a des gens, ils sont faibles, subhanallah. Une parole, ça leur... L'être humain, il est faible. Son cœur, il est faible. Parfois, une parole, ça te fait être triste pendant des mois. Et une parole, ça te fait être heureux pendant des mois. Une parole. Subhanallah, c'est quoi une parole? Donc c'est pour ça que la bonne parole c'est une sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le musulman il dit du bien ou il garde le silence. Il dit du bien ou il garde le silence. Si on habitue cette langue à dire le bien, à dire des bonnes paroles. Les paroles c'est comme les fruits, on doit en choisir les plus beaux. Ahsanuha, les plus belles. Quand tu vas, tu choisis des fruits, tu choisis les plus beaux fruits. Pas seulement les beaux, pas ceux qui sont seulement bons à manger, non, les plus beaux. C'est comme ça la parole. Choisir les plus belles paroles. Et Allah nous en enjoint cela avec tous les gens. Wa qulu lin-nasi husna. Dites aux gens les plus belles paroles. Aux gens, à tous les gens. Ça, c'est une sadaqa. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que même enlever quelque chose qui gêne sur la route, le passage des gens qui pourraient leur nuire, c'est aussi une sadaqa. D'ailleurs, ça fait partie du iman. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que la foi est de 60 et quelques branches, ou 70 et quelques branches? Sa plus basse branche est d'ôter quelque chose qui pourrait gêner le chemin des gens. Ça fait partie de la foi. Et c'est une sadaqa. Bien sûr, tout cela, elles doivent être accompagnées d'une intention l'intention de s'approcher d'Allah et d'être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses actes. Parce qu'il y a des gens qui ont un bon comportement, mais ils ne cherchent par cela que la louange des gens, l'éloge des gens, être aimé par les gens. Celui-là n'a pas de récompense auprès d'Allah. Mais celui qui fait cela pour être aimé par Allah, il sera aimé par Allah, récompensé, puis aimé par les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'être humain, il doit s'acquitter d'une sadaqa chaque jour que le soleil se lève pour remercier Allah et être reconnaissant pour le bienfait de ses articulations. Il est venu dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans un autre hadith qui est sahih, que le nombre d'articulations que l'être humain a dans le corps est au nombre de 360. 360 articulations. Et le croyant doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de ses articulations, qu'elles ont été faites de manière parfaite. Mais subhanallah, imaginez les articulations de la tête, des doigts, des poignets, des coudes, de tous les membres. S'il n'y avait pas ces articulations, comment la personne elle fait? Les personnes qui sont bloquées, paralysées, qui n'arrivent pas à bouger. Et comme il est venu dans le hadith sahih, dans la version de l'imam Muslim, il a dit il suffit, à la place de toutes ces sadaqas, de prier 2 unités de prière en matinée, à l'heure de Dhuha. Tayyib, on a vu dans le premier et dans le deuxième hadith, cet encouragement à prier la prière de Dhuha. Et on a vu qu'il était nécessaire d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses articulations, qui sont un bienfait parmi ses bienfaits. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de 2 catégories. Une qui est obligatoire, une autre qui est recommandée. La reconnaissance obligatoire, c'est en pratiquant ses actes obligatoires et en délaissant ses interdits. Et la reconnaissance recommandée, qui est supplémentaire à la limite obligatoire, c'est de pratiquer les œuvres surérogatoires et de délaisser les œuvres détestables. Makruha. Et ici, on voit dans ce hadith qu'il suffit de faire 2 unités de prière à l'heure de Dhuha à la place de ces 360 aumônes qu'on doit faire pour chaque articulation. Comment ça? Parce que la personne, à ce moment-là, quand elle fait 2 unités de prière, elle utilise toutes ses articulations pour adorer Allah, n'est-ce pas? Donc en faisant cela, comme il a utilisé ses articulations dans ce pourquoi Allah l'a créé, alors ça lui suffit pour avoir été reconnaissant envers Allah. Car la meilleure reconnaissance envers Allah, c'est d'utiliser le bienfait qu'Allah t'a donné de la manière qu'Allah aime. De la manière qu'Allah aime. L'heure de Dhuha, elle commence après que le soleil se soit levé à l'horizon d'une hauteur d'une lance, jusqu'à, on va dire, 1/4 d'heure, 20 minutes avant l'heure de Dhuha. C'est-à-dire avant le zénith de 10 minutes. Le meilleur moment pour faire Salat al-Dhuha est à la fin de la matinée. C'est-à-dire, on va dire, 40 minutes avant Dhuha, par exemple. C'est le meilleur moment. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Salat al-Dhuha a la plus de récompense au moment où les chameaux, les petits chameaux, vont se cacher de la chaleur du soleil. Donc c'est au moment où le soleil de la matinée commence à être chaud. Mais qu'on le fasse, si on le fait à partir du début de l'heure jusqu'à la fin, quand on veut, on aura fait Salat al-Dhuha. Mais son meilleur moment, plus méritoire, est de le faire au dernier moment de la matinée, vers la fin de la matinée. Dans la dernière heure, on va dire, avant Salat al-Dhuha. Mais on ne prie pas de prière surérogatoire 1/4 d'heure avant le Dhuha. Car c'est le moment du zénith, où il est interdit de prier, de chercher à prier à ce moment-là. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé Abu Huraira de ne pas délaisser cette prière de Dhuha. comme les venus de l'hadith sahih, où il lui a dit, l'être le plus aimé à moi m'a dit, m'a conseillé de jeûner 3 jours par mois, de ne pas m'endormir avant de prier le witr, et de ne pas délaisser la prière de Doha. Oui, c'est ça que j'allais dire. Pourquoi cette prière, elle a une grande récompense de le faire à ce moment-là? Pourquoi cette prière à ce moment-là, elle prend la place de toutes les sadaqas qu'on pourrait faire pour les articulations? Pourquoi pas à un autre moment? Pourquoi pas, par exemple, celui qui fait 2 rak'at surérogatoires dans la journée, quand il veut, ça remplace cette sadaqa? Et pourquoi à ce moment-là précisément, dans la matinée? Parce que c'est le moment où les gens sont le plus occupés dans leurs affaires. Et en islam, adorer Allah en un lieu où les gens oublient beaucoup Allah, cela a plus de récompense. Et adorer Allah dans un moment où les gens oublient beaucoup Allah, cela a beaucoup plus de récompense. De ce fait, faire ces 2 unités de prière en fin de matinée où les gens sont à fond dans leurs affaires, c'est là où ça a plus de récompense. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن واصبة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Le 27e hadith. D'après Nawas ibn Sam'an رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la piété consiste en la haute moralité. Le mal est ce qui met ton âme dans l'embarras et qu'il te répugne, que les gens découvrent en toi. Wabisa ibn Ma'bad, radiallahu anhu, rapporte. Je me rendis une fois auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il me dit: es-tu venu me poser des questions sur la piété? Certes, dis-je. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: interroge ton cœur. La piété est toute chose dans laquelle l'âme et le cœur trouvent leur quiétude et leur sérénité. Le mal est ce qui tourmente ta conscience et met ton cœur dans l'hésitation. Quoi que les gens te donnent comme avis contraire et insistent dessus plusieurs fois. Ce hadith, en vérité, ce n'est pas un hadith, c'est 2 hadiths sous le même chapitre. Donc si on compte ce 2e hadith de Wasiba, le nombre de hadiths qui sont dans les 40 hadiths sont de 43 et non de 42. Si on compte celui-là. Les 2, ils ont été cités sous un même numéro, sous un même chapitre. Le premier hadith, le hadith de Nawas ibn Sam'an, il est rapporté par l'imam Muslim. Le 2e hadith, le hadith de Wasiba, il est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad. Et par Ad-Darami dans le Musnad al-Jami'. Mais sa chaîne de transmission est faible. Cette chaîne de transmission est faible, mais elle est renforcée par un autre hadith, le hadith de Abi Sa'laba Al-Khushani, qui est un hadith rapporté aussi par l'imam Ahmed et Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir. Et sa chaîne de transmission a été rendue acceptable par Ibn Rajab. Donc, avec ce hadith qui vient le renforcer, on dit que le hadith de l'Wasiba est aussi acceptable et bon. Est aussi acceptable et bon. On voit dans ce hadith que la bonté, elle peut prendre deux sens. Un sens qui est la bonté envers les créatures d'Allah, qui peut se résumer en la bienfaisance, comme on l'avait déjà dit auparavant. Et le deuxième sens, c'est un sens général, qui est le fait d'accomplir toutes les obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, extérieures et intérieures. Ceci aussi est aussi nommé la bonté. La bonté. Donc, la bonté a été définie ici par rapport à sa réalité, qui est le fait d'obéir à Allah de manière extérieure et intérieure. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du péché. Et il a dit, c'est ceux qui est hésitant en toi, qui te gênent. Et qu'il te répugnerait que les gens découvrent cela en toi. En fait, il a défini le péché par ses effets et non pas par sa réalité. Quels sont ses effets? C'est qu'il te laisse une hésitation dans le cœur. Quels sont ses effets? C'est que tu as peur que les gens le découvrent en toi. Ça, c'est un effet du péché. Puis, quand on réunit les deux hadiths, on peut voir que ce péché, il peut être pris en compte par deux considérations différentes. La première considération, c'est ce qui reste hésitant dans ton cœur, en toi, et douteux dans ta poitrine, et que tu répugnerais que les gens le découvrent en toi. Cette considération, elle est réunie en prenant en compte le hadith de Nawas ibn Sam'an et le hadith de Wasiba. La deuxième considération, elle commence pareil, c'est ce qui reste hésitant en toi, et qui te fait douter dans ton cœur. Mais là, ça va plus loin. Même si des gens viennent te réconforter et te dire « Non, ce n'est pas un péché, il n'y a pas de mal. » Ils te font la fatwa pour te dire que c'est du bien. Malgré cela, tu ne cèdes pas. Donc c'est un degré encore plus grand. Parce que le premier, tu as une simple hésitation et personne ne t'encourage à l'accomplir. Là, la deuxième considération, là, il y a carrément quelqu'un qui te dit « Non, c'est bien, fais-le, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché. » Donc cela demande une force intérieure encore plus grande, une conviction et que le cœur soit illuminé par la foi encore plus pour ne pas douter, pour ne pas douter. Donc ce deuxième degré, il est plus compliqué à accomplir. Car en plus du fait que tu doutes, et que tu as une hésitation, il y a des gens qui viennent essayer de t'enlever ce doute, mais dans le sens contraire, en te disant « Non, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais ce que tu fais. » Cette deuxième considération, le fait de prendre en compte le doute qui est dans le cœur, c'est dans deux situations, ou bien avec deux conditions. La première condition, c'est que ceci ne rentre pas dans le halal et le haram. C'est-à-dire, une chose qui est clairement licite, on commence pas à se dire « Ah, j'ai des doutes. Est-ce que la viande de mouton, c'est licite en islam ? J'ai des doutes. » Non, ça, le Coran, il est venu en parler. La sunna est venue en parler. Est-ce que le porc est illicite ? Non, mon cœur, il dit que c'est pas illicite. Non, ça, le Coran et la sunna sont venus en parler. Ce ne sont pas sur ces points-là qu'on te demande de revenir à ton cœur ou de savoir si tu as une hésitation ou non. Tu reviens à ton cœur, tu reviens à savoir si tu as une hésitation ou non, quant à savoir est-ce que les conditions pour qu'une chose soit halal sont réunies ou non. Par exemple, tu as un chien de chasse, tu l'as envoyé chasser. Et tu ne te souviens plus est-ce que tu as dit Bismillah ou tu n'as pas dit Bismillah quand tu l'as envoyé chasser. Il est revenu avec une proie. Tu hésites. Donc l'hésitation n'est pas dans le fait c'est halal ou c'est haram. Ce que le chien de chasse te ramène, ça c'est dans le Coran, c'est halal. Mais avec quelles conditions? Si c'est un chien entraîné, et si tu as dit bismillah quand tu l'as lâché pour aller chercher la proie. Maintenant tu ne sais pas si tu as dit bismillah ou non. Alors là tu reviens à ton cœur, à savoir est-ce que c'est douteux ou non, est-ce que tu te souviens ou non. Et si tu as un doute, bien sûr, tu vas ne pas t'en approcher. Et cette condition-là de revenir à son cœur, c'est à condition que le cœur soit illuminé par la lumière de la foi et de la révélation. Car beaucoup de gens aujourd'hui disent « Ah, mon cœur, il se sent apaisé. » Dans son cœur, il se sent apaisé dans le péché. Mais son cœur, il ne se sent pas apaisé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, son cœur est malade ou il est mort. On ne prend pas en compte ce que son cœur ressent. Il a besoin d'être soigné avant qu'il ressente les choses bonnes et mauvaises. Mais quand ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à qui? À un compagnon qui craint Allah, qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît sa religion. Donc ces personnes-là, oui, effectivement, dans les choses équivoques, dans les choses où il y a besoin de revenir et que la personne elle se demande elle-même si c'est une bonne ou mauvaise chose de faire telle chose, oui, cette personne-là, elle peut revenir à ce que son cœur ressent, c'est-à-dire, est-ce qu'elle se sent tranquillisée à faire tel acte ou elle ne se sent pas tranquillisée. Le deuxième point qui est important à citer, c'est que la fatwa que l'on ne prend pas en compte, c'est celle qui est donnée selon les passions, qui est donnée par une personne qui n'est pas apte à la fatwa, qui est une personne de l'innovation, ou qui est quelqu'un du commun, ou quelqu'un de l'égarement, ou quelqu'un qui suit ses plaisirs et ses désirs et ses passions. Celui-là, sa fatwa n'a pas de valeur. Il va venir t'appuyer dans le mal. Il va te dire non, n'hésite pas. N'est-ce pas? Par contre, si la fatwa est donnée par une personne qui craint Allah, et qui a la science, et qui est une personne de la sunna, et qui t'explique avec les preuves que telle chose est licite ou illicite, c'est suffisant. On revient à sa fatwa. Dans ce cas-là, on revient à sa fatwa. Car il a plus de connaissances que nous. On va finir avec le 28e hadith, inshallah. الحديث الثامن والعشرون وعن أبي نجيح العربار ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Le 28e hadith, le hadith de Abu Najih Al-Irbar Ibn Sariya رضي الله عنه. C'est le hadith de Abu Najih Al-Irbar Ibn Sariya radiyallahu anhu. Il a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un sermon qui remplit nos cœurs de crainte et fit couler nos larmes. Nous lui dîmes: ô messager d'Allah, on dirait que c'est le sermon de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous donc quelques recommandations. Il dit: je vous recommande de vous prémunir envers Allah, d'écouter et d'obéir, même si votre dirigeant est un esclave. Celui d'entre vous qui vivra verra de grands différends. Suivez donc ma tradition et celle des successeurs de mes califes bien guidés droits. Accrochez-vous à cette tradition mordez-y avec vos dents, avec vos molaires, et méfiez-vous des nouveautés en religion, car toute innovation est un égarement. Ce hadith, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi dans son Jami', ainsi que Ibn Majah, rahimahumullah. Ce hadith, il fait partie des meilleurs hadiths des gens du Sham. Faut savoir que les hadiths avant, ils étaient connus par les hadiths des gens de Koufa, les hadiths des gens du Sham. C'est-à-dire ceux qui ont rapporté le hadith. C'est-à-dire tous les rapporteurs du hadith sont d'une région précise. Donc celui-là, il fait partie des meilleurs hadiths des gens du Sham. Cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue après un sermon dont les compagnons ont compris que cela ressemblait à un sermon d'adieu. Un sermon qui a fait bouger leur cœur et qui a fait couler leurs larmes. Alors ils en ont profité pour demander un conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une recommandation qu'ils mettront en pratique après lui. On voit alors dans ce hadith, quand on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous, les compagnons viennent le voir et lui demandent les plus grandes recommandations qu'ils doivent mettre en pratique après lui. On comprend que les points qui vont être cités sont vraiment des bases solides de l'islam, des choses très importantes. Car c'est des recommandations qu'il donne qu'il faut mettre en pratique après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite qu'il y aura beaucoup de divergences après lui. Beaucoup de divergences. Et subhanallah, il a dit vrai. Il ne pouvait que dire vrai, sallallahu alayhi wa sallam. Car il ne parle pas sous l'effet de la passion. Combien de divergences sont apparues après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les premiers siècles? Ou dans les débuts des premiers siècles jusqu'à aujourd'hui? Combien de divergences? Combien de sectes? Combien de nouveaux avis? Combien de nouvelles philosophies? Combien de nouveaux groupes? Combien de nouvelles idées? Combien de nouvelles lectures du Coran et de la Sunna? Combien de gens qui ont essayé de mettre des doutes sur le Coran et la Sunna et sur leur pratique et la compréhension? Combien? Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore plus. Maintenant que l'islam et la science sont faibles. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux. Maintenant qu'il y a les télévisions, maintenant qu'il y a les moyens de communication. Donc cette divergence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée et dont il a mis en garde, mais c'est une réalité, c'est une chose. Donc cette divergence, ce n'est pas une chose que nous aimons, que nous voulons, que nous cherchons, cette division, cette divergence, ce n'est pas une chose que nous aimons, que nous voulons, que nous cherchons. C'est une réalité avec laquelle nous agissons. Nous n'avons pas le choix. C'est une réalité qu'Allah a décrétée dans le Qadar. C'est la destinée d'Allah que cette communauté va se diviser en 73 sectes. Et comme les savants l'ont expliqué, 73, ce n'est pas ce qui est voulu par 73, c'est-à-dire beaucoup. Beaucoup. Plus que 73. Ou alors 73 principales, chacune, elle a des sous-sectes. C'est-à-dire des centaines et des centaines et des centaines de sectes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y aurait qu'un seul groupe qui serait sauvé parmi tous ces groupes-là. Un seul. Ce n'est pas comme certains disent, tous les chemins mènent à Rome. Chacun adore Allah comme il veut et on a tous le même objectif, tout le monde. Tous ceux-ci sont des chemins qui mènent à Allah. Non, non. Il y a un seul chemin qui mène à Allah. Les autres sont les chemins qui mènent au feu. Le chemin qui mène à Allah, c'est le chemin qui a été cité dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui l'a dit. Ce sur quoi je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. C'est ce qu'il a dit ici. Il l'a répété dans une autre formulation. Accrochez-vous à ma Sunna et à la Sunna de mes califs bien guidés. C'est exactement la même parole qu'il a dit dans l'autre hadith, des 73 sectes. Donc, quand on a su cette réalité, On s'attache à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de faire. La première des choses, la taqwa. La taqwa, c'est de faire les causes pour se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il mette, que le serviteur mette entre lui et Allah quelque chose pour se prémunir. Quelle est cette chose? C'est l'obéissance. L'éloignement des péchés. Car c'est pas, c'est, on fuit du châtiment d'Allah vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas fuir d'Allah à part vers lui. À part vers lui, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut fuir d'Allah. À part en fuyant vers lui par le repentir et par l'obéissance. Le deuxième point essentiel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, c'est de rester uni autour du dirigeant de la communauté. Même si c'est quelqu'un qu'on apprécie pas. Chez les Arabes, un esclave. Comment un esclave il peut être mon dirigeant? Dans un autre hadith, un esclave noir. À l'époque, pour eux, c'était des esclaves qu'ils ont, certains ils ont affranchis. Comment il va être dirigeant sur nous? C'était inconcevable pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, même si c'est un esclave qui devient votre gouverneur, qui a pris ce pouvoir par force, de force, sans votre accord, sans votre satisfaction. Mais ça y est, maintenant il a le pouvoir, les choses, son pouvoir est établi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de chercher à le destituer. Et il a interdit de lui désobéir en dehors de la désobéissance d'Allah. C'est-à-dire, on doit lui obéir dans tout ce qui est permis. Par contre, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. S'il nous ordonne de faire quelque chose d'illicite, d'interdit en islam, ou de délaisser une obligation, à partir de ce moment-là, on ne lui obéit plus. À partir de ce moment-là, on ne lui obéit plus. On ne lui doit plus obéissance. Mais on se suffit de ne pas lui obéir dans cela, mais on ne pousse pas les gens à se révolter contre lui ou à le critiquer en public parce qu'il a fait tel ou tel péché, par exemple. Certains vont dire, alors dans ce cas-là, tout le monde fait tous les péchés qu'il veut, on déconseille jamais le blâmable. Non, pas du tout. Il y a une différence entre déconseiller le blâmable d'une manière générale et entre critiquer le gouverneur en le désignant. Par exemple, quelqu'un, il dit ouvertement, l'alcool c'est interdit, vendre de l'alcool c'est interdit, la fornication c'est grave en islam. Ça c'est obligatoire de le faire. La musique c'est interdit en islam, par exemple, il va donner les preuves sur cela. Mais, il ne va pas dire comme tel, ou il va commencer à citer des gens, ou bien viser un événement ou une personne précisément. C'est ça la voix des gens de la sunna dans la manière de déconseiller le blâmable, quelque chose de blâmable qui est fait d'une manière générale ou qui peut être appuyé parfois par certains dirigeants. On défend la vérité, car la vérité ne doit pas être tue, et cette vérité on la défend de la manière des gens de la vérité. C'est-à-dire on ne fait pas quelque chose de haram en voulant faire quelque chose d'obligatoire. On a l'obligation de déconseiller le blâmable et on a l'obligation de la faire d'une manière qui ne pousse pas les gens à se révolter contre le gouvernement. Donc on préserve toutes ces obligations en même temps. Et les gens de la sunna sont les gens qui sont les meilleurs conseillers pour les gens en général, que ce soit les gouverneurs ou les gouvernés, car ils ne cherchent ni le pouvoir ni l'argent. À la différence des gens de l'innovation, qui sont capables, comme les caméléons, de prendre toutes les peaux possibles pour atteindre le pouvoir. Il peut pendant des années insulter les dirigeants, puis après dire tout le contraire et puis s'approcher d'eux juste pour arriver à ses fins. À la différence des gens de la vérité et de la sunna, ils ont le même avis et les mêmes paroles dans toutes les situations. Ils ne changent pas. Car leur avis, leurs paroles, leurs positions, elles sont basées sur le Coran et la sunna. Elles ne sont pas basées pour plaire ni au gouverneur ni au gouverné. Elles sont basées pour plaire à Allah. Peu importe ce que les gens en diront. Voilà la différence entre un bon conseiller sincère et quelqu'un qui cherche des intérêts. L'autre conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, c'est de s'attacher à sa sunnah. Car le moyen d'éviter l'égarement, c'est s'attacher à sa tradition. Comment on s'attache à sa tradition? En apprenant. En apprenant la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, on les apprend, on les lit, on en tire les enseignements, on les met en pratique, on les défend. On en connaît les authentiques, des faibles, pour mettre en pratique et croire ceux qui sont authentiques et délaisser ceux qui sont faibles. Hakada. Et il a fini, sallallahu alayhi wa sallam, donc oui, suivre sa sunna, et il ne s'est pas arrêté à cela. Suivre la sunna de ses califes bien guidés. Donc la voie des compagnons, la compréhension des compagnons, la mise en pratique des compagnons de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, c'est la mise en pratique, c'est la voie qui a été agréée par Allah et qui a été agréée par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous laissez donc pas avoir des doutes par toute personne qui voudrait vous faire douter sur la compréhension et la pratique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs de cette communauté après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les gens qu'Allah Ta'ala a choisi pour être en compagnie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont transmis avec toute loyauté, ce sont des gens dignes de confiance, avec toute confiance et amana, le Coran et la Sunna, qui sont la religion. Ils ont transmis cette religion de manière sincère et véridique, et ils sont dignes de confiance en cela. Et les héritiers des prophètes qui sont les savants ont pris cette science d'eux, les savants parmi les tabi'in, et ils l'ont transmise à leurs élèves, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit oralement, dans la pratique, dans la compréhension, que dans les écrits, qui ont été vérifiés, mémorisés, etc. Et la dernière chose, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas suffi d'encourager les gens à suivre la sunna, il a mis en garde aussi contre les innovations. Et il a clairement dit et jugé que toute innovation, toute, est un égarement. Toute innovation en religion est un égarement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise innovation. Et là, on parle bien sûr en religion, c'est-à-dire dans les pratiques cultuelles et dans les pratiques religieuses, dans ce qui est lié aux règles religieuses. On ne parle pas des inventions technologiques, par exemple, ou des inventions, les voitures, etc. Tant que cela ne contredit pas, ça ne va pas à l'encontre de certaines règles claires de l'islam, il n'y a pas de mal en cela, ça fait partie des choses licites. Nous, on parle des croyances religieuses, des pratiques religieuses, de la méthodologie de compréhension et de pratique de l'islam. Personne ne peut venir avec ce qu'il veut. Personne ne peut venir dire il nous faut une révision de la lecture du Coran à la lumière des nouvelles philosophies ou de la philosophie des lumières. Quelle lumière? C'est pas une lumière. La lumière, elle est dans le Coran. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié des croyants, il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Allah a parlé dans le Coran que cette révélation est une lumière. Donc les gens qui ont une lecture illuminée, ce sont les croyants qui s'attachent au Coran et à la Sunna. Et les obscurantistes sont ceux qui viennent avec leurs idées philosophiques ou nouvelles, ou qui viennent nous importer leurs idées de l'Occident. C'est eux les obscurantistes. Ce ne sont pas les gens qui s'attachent à la lumière du Coran et de la Sunna. Donc voilà le conseil, la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à un compagnon qui a considéré que c'était une recommandation à faire comme si c'était une recommandation d'adieu. Qui est la crainte d'Allah, de se prémunir contre le châtiment d'Allah, l'obéissance au gouverneur et l'union autour du gouverneur des musulmans, l'attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voie des compagnons et spécifiquement aux quatre califes bien guidés, et la mise en garde contre toute innovation, toute nouvelle croyance, toute nouvelle voie, toute nouvelle philosophie contradictoire à l'islam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.